Salut, vous écoutez La Courte Échelle, une émission de radio tous les dimanches soirs de 19h à 20h, une émission anticarcérale pour parler des tôles et des lieux d'enfermement, toute forme d'enfermement. On a à nouveau le fixe à galère et du coup on le rappelle, c'est le 04 91 08 28 10. On a aussi une adresse postale et on répond au courrier volontiers, on lit les témoignages à l'antenne. Si vous pouvez nous les préciser, que c'est des témoignages comme ça, on est sûr de pouvoir les lire à l'antenne. C'est Radio Galère, La Courte Échelle, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. On a aussi un mail pour celles qui ont accès à internet et qui ont envie de nous joindre. C'est la-courte-échelle@riseup.net. Voilà, on est une petite brochette ce soir, comme souvent les dimanches. Là, ce soir, il y a Liane.
Coucou.
Il y a Charlie.
Salut.
Il y a Cyl.
Coucou.
Et il y a moi, Louise. Ce soir, on va commencer par écouter un podcast d'un témoignage d'un pote qui était enfermé en QHS dans les années 70-80. J'ai pas la date précise.
Mais on vous en a parlé la dernière fois. Dans l'émission des 96 heures, on avait même passé un petit teasing.
Ouais. Bah, ça servait de point de départ pendant les 96 heures pour une discussion. Et ça nous paraissait important et intéressant de revenir sur ces lieux d'hyper-isolement aussi, dont Darmanin se sert pour imaginer ces prisons narcotrafiquants. Je sais plus comment je l'appelle.
Moi non plus, ces prisons pour narcotrafiquants.
Et ensuite, on aura quelques nouvelles récentes et puis un appel. Voilà. Est-ce que ça vous va si on lance le podcast tôt ou tard?
Ouais, on va lancer le podcast et j'espère que ça donnera de la force parce que ça parle aussi de révolte et de résistance en fait à l'intérieur à l'époque.
Grave.
Qui peuvent continuer à inspirer. Allez, ça part.
À tout de suite.
On entend doucement, on va essayer de faire un petit réglage technique.
On est en cours de gestion de pour réussir à mettre le podcast sur les QHS qui ont été supprimés en 82. Et donc, on entend un peu.
On entend un peu, peut-être qu'on peut...
etc.
Ça y est.
À tout de suite.
On repart du début. À toutes.
Alors, Eve, oui. Donc on va discuter un peu de tes moments d'incarcération et puis des longs moments d'isolement, QHS, quartier d'isolement, etc. Toi, tes premières incarcérations, donc c'est aux alentours des années 68-69.
69.
Et puis après, tu vas faire une longue période d'incarcération de 80 à 93.
13.
Pour replacer avec l'histoire des QHS, des quartiers d'isolement, les QHS ont été créés donc sous Giscard en 75 et puis jusqu'à 82 où Badinter supprime les QHS, création des quartiers d'isolement, donc voilà, qui change pas grand chose, on change de nom, on en reparlera. Et tu disais notamment par exemple que même après 82, tu vois, ça a continué, 83, etc. La suppression réelle des QHS en tant que telle, voilà, a pas été véritablement supprimée. Est-ce que toi, donc, tu arrives, ton expérience d'isolement en QHS, elle démarre au Baumettes en 80.
80.
Tu peux raconter un peu les caractéristiques aussi de ces QHS, de ces quartiers dits quartiers haute sécurité.
Alors, dans ces quartiers de haute sécurité, donc
Le fait est que tu avais, par exemple, le bas-flanc en béton, qui était, bon, du béton. Tu avais la table, qui était en béton, et qui était fixée. Ça restait du béton. Tu n'avais pas droit à tes affaires. On te mettait en groguet. Tu n'avais pas droit à tes affaires personnelles, contrairement aux détenus qui sont prévenus en bâtiment. Donc, à partir du moment où tu étais en groguet, et tu avais tes affaires personnelles, y compris les cantines, ce que tu pouvais cantiner, dans un placard à l'extérieur du QHS. Donc, si tu peux faire chaque fois que tu voulais, je sais pas moi, si tu voulais boire un ricoré, si tu voulais prendre un truc que tu avais acheté, il fallait appeler le surveillant et pour se faire ouvrir la porte, pour lui demander ce que tu voulais, et qu'il te donnait ça au compte-gouttes. Alors tu prends, évidemment, il se faisait un malin plaisir à ne pas entendre si tu l'appelais, et ainsi de suite. Ce qui fait que moi, d'emblée, ayant très vite compris ce système-là, je me suis privé de tout. Pour ne pas, parce que c'était, pour moi, je pratiquais le principe du refus, de me soumettre, de baisser la tête, y compris devant un surveillant. C'est pour ça que quand on dit les surveillants gentils et pas gentils, les surveillants, aujourd'hui, si c'est leur mettre des cagoules, c'est pas pour rien.
Obomet, tu t'es révolté aussi, tout en étant au QHS?
Oui, tout en étant au QHS, parce que chaque fois que j'ai faussé compagnie, parce qu'on vient, quand on vient te chercher pour quelques mouvements que ce soit, que tu dois faire, que ce soit psychiatrique, psychologue, tout ce que tu veux, ou avocat, on vient te chercher, il y a un brigadier et deux gardiens qui viennent te chercher. Et quand on te fait traverser les coursives pour t'amener à l'endroit où on doit t'amener, on fait rentrer les gens, c'est-à-dire tu ne dois voir personne en gros. Voilà, tu ne dois voir personne. Donc, moi j'ai réussi à leur fausser compagnie plus d'une fois. Parce que tu n'es pas enchaîné, tu vois, ils t'amènent comme ça. Bon, après, ils hésitaient à me mettre les chaînes aux pieds. Hein. Mais chaque fois que je leur ai fait cette compagnie d'une rapidité. Bon, je faisais plein de sports au QHS, j'avais que ça. Hein. Donc, j'étais comme ça, j'étais en pleine forme, on va dire, au moins au niveau physique, je me maintenais. Et donc, chaque fois que je leur faisais compagnie, ça aboutissait à une révolte. C'est-à-dire que un coup je montais par les gouttières du QHS, je me suis retrouvé sur les toits des QHS. Une autre fois, à l'avocat, je suis monté sur les toits parce que j'avais observé qu'il y avait une lucarne donc j'avais poussé la table à l'avocat, il était mort de peur, le pauvre. Bon, et j'avais dit non, mais toi, hein. Et donc j'étais monté par la lucarne, j'avais accédé au toit. Une autre fois, je leur avais faussé compagnie à la hauteur du bâtiment A. Bon, ben, il faut savoir qu'il y avait le bâtiment B, le bâtiment A au Beaumont, et puis ensuite le greffe, les avocats, tout ça. Bon, donc à la hauteur du bâtiment A, je leur ai faussé compagnie. Là, j'ai grimpé, parce qu'il y a quatre étages. Hein. Là, j'ai grimpé à l'extérieur. J'ai grimpé entre les gouttières et les lampadaires. Bon, après, il y a des gens qui m'ont envoyé des draps de leur cellule. Je m'accrochais au drap, je continuais à grimper avec le drap. Bon, je suis monté sur les toits. Après, j'ai réussi à interpeller les gens qui étaient dans des cours pour qu'ils montent, qu'ils m'ont rejoint. Et après, ben, je transigeais avec le procureur la reddition. Alors, chaque fois, je lui disais, je le fais au nom de mes camarades qui m'ont désigné comme porte-parole. Bon, d'où l'anecdote où les procureurs, les machins, me disaient, ouais, mais enfin, vous, on vous choisit toujours comme porte-parole.
Ce Sur les 5 ans à peu près que tu as fait QHS, isolement, etc. Puis tu as eu préparé, c'est ce que tu disais, à peu près un an de cachot à chaque fois.
Chaque fois que je faisais compagnie, bon, ben, tu comparais au prétoire, qui est le jugement interne. Et quand je comparais au prétoire, ben, c'était 45 jours de cachot, ouais. Et puis 46 jours de cachot, attention. C'est pour ça que là encore, je reviens sur ceux qui disent les gentils matons, pas les gentils matons. Non, mais lui il est bien. Moi, ils m'ont pris à coup de lancer incendie, à poire, au fond du cachot, comme ils font aux États-Unis. Hein. Il faut pas rêver. Hein.
Le matin.
Parce que je me rebellais. C'est certain. Mais bon.
L'idée en QHS, c'est de faire rencontrer personne. Tu dois absolument rencontrer personne. Tu es dans le bâtiment, c'est ça.
Ouais.
Donc ça fonctionne.
Et personne en cours. C'est-à-dire que tu sors seul en cours de promenade. Tu as droit à une demi-heure de promenade le matin, une demi-heure l'après-midi, mais tu sors seul.
Tu disais aussi, pour te couper les cheveux aussi, il y a le côté... Ils veulent à tout prix te raser la tête.
Voilà, ils veulent à tout prix que les gens aient les cheveux très 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 courts sur la tête, et puis surtout qu'ils soient toujours imberbes. Bon, moi, dès 80, dès mon arrestation, par opposition... Moi, j'ai gardé les cheveux longs et j'ai gardé la barbe. Après, par opposition, je vais te donner un autre exemple. Bon, ça, c'était quand tu comparaissais en tribunal ou n'importe quoi. Le treillis est interdit. Moi, j'avais fait rentrer un treillis. Et je mettais le treillis. Je comparaissais, j'arrivais dans le box en treillis. Je disais au revoir, messieurs. Je vous reconnais pas. Enfin, je ne disais pas que c'était même pas de cette façon. Des fois, j'étais très insultant. Moi, un jour, j'avais dit au président, mais dites-moi, d'après l'âge que vous avez, vous avez dû juger les résistants pendant la guerre. Alors, évidemment, c'est des choses qui ne leur plaisent pas. Un jour, un procureur, il parlait tout. Bon, ça, c'est avant que je quitte le boxe, quoi. Alors, j'ai dit, mais Manier, tu... Oh, monsieur le président, il emploie le tutoiement. Citoyen Manier, sache que depuis la Révolution française, 1789, je leur faisais un cours d'histoire. Ils étaient malades. Ils ne pouvaient rien dire. J'ai dit, citoyen Manier, malade. Et après, je tire ma révérence parce que moi, je ne vous reconnais pas. J'ai dit, je suis rentré dans le box par respect du jury populaire. Mais aujourd'hui, je dis au revoir parce que vous, les magistrats, je ne vous reconnais pas.
Les parloirs aussi, c'est particulier aussi, quand tu es en QHS aussi.
Oui et non, dans le sens où... Ben, c'était particulier à l'époque. À l'époque, il y avait des vitres. Hein. Il y avait des vitres, il y avait tout ça. Bon, donc, si tu préfères, tu parlais à travers la vitre, à travers l'hygiophone. Bon. Non, là, ils te laissaient... Bon, après, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que sinon, ils te coupent tout, hein. Ils te privent de parloir et tout.
Il y a eu des révoltes, d'ailleurs, sur les parloirs aussi.
Révoltes pour les passants, moi, ça aussi, c'est moi qui les ai menés au Beaumont pour faire supprimer les hygiophones. Parce que, comme les QHS...
Ouais.
La gente matonesque a beaucoup de difficultés à admettre qu'une loi est passée. Donc, il gagne encore du temps. Et moi, je me suis battu là aussi pour... j'ai dit non.
Oui.
La loi est passée, vous devez supprimer les hygiophones. Ils avaient trouvé l'option, les matons, de garder le muret. Parce que l'hygiophone repose sur un muret. Donc, de garder le muret qui crée une séparation avec ton visiteur. Ah oui, non mais attendez, on n'a pas ci, on n'a pas là. Bon, après je me suis battu pour que casse les murets, pour avoir un vis-à-vis normal avec les visiteurs. Bon, voilà, bon, si tu préfères, toute entrave à la liberté, à un droit d'expression, je me révoltais. Je te donne un exemple, en 84, donc j'étais en QHS. Il y a les premières élections régionales en Corse. Bon, là je me suis battu parce qu'ils ne voulaient pas que je vote. Je dis, je regrette. J'étais en tant que prévenu, on a le droit de vote. On n'est pas jugé, on n'est pas condamné. Donc on a le droit de vote. Donc là, j'avais fait voter et j'avais nommé mon avocat comme, comment dirais-je, comme vous me représentant pour porter mon bulletin de vote. Donc l'avocat, il est venu, bon, pas que moi, c'est-à-dire mes deux co-inculpés aussi, il est venu les récupérer. Nos trucs, on a eu droit à la carte électorale. Bon, il avait là, hein. Inutile de te dire qu'il avait là, hein. Parce que tu es obligé, l'administration pénitentiaire, l'administration judiciaire, à exiger, à avoir ton droit de vote, tu peux se dire qu'ils n'étaient pas contents, hein.
T'as été,
J'utilisais tout ce que je pouvais au niveau des lois existantes et au niveau aussi des lois internationales. Parce que des fois, je disais, oui, mais ça, c'est reconnu national, mais internationalement, non. Donc, j'ai beaucoup... Bon, tu me diras, j'avais préparé à l'époque, j'avais préparé une... Comment dirais-je? Bon, j'étais monté que jusqu'à... C'est pas un examen, c'est... Bon. En droit. Une capacité de droit, tu vois.
Oui.
Bon, après, j'ai arrêté. Mais j'ai arrêté, si tu préfères, au niveau des études... Mais j'ai continué à étudier le droit. Que ce soit les codes pénales, codes internationaux, que ce soit...
T'as été dans des collectifs, tu as de lutte, t'as été...
À la SPF,
c'était l'association...
Alors la SPF, ça avait été monté...
Ça voulait dire Association syndicale des prisonniers.
Association syndicale des prisonniers de France. Ça avait été monté par Jacques Gambier, qui avait été incarcéré, qui avait un gros soutien de la Fédération anarchiste, d'avocats de Fédération anarchiste, de chanteurs... Bon, moi, je suis rentré, donc évidemment, j'avais contacté Jacques Gambier, j'ai été nommé vice-président, et j'ai commencé à alimenter en prison, au Beaumet, par courrier, par massif, par là, une section qui pouvait, il ne pouvait rien faire. Et le but, ça a été la première action qui a été faite de la SPF, ça a été, nous sommes une association syndicale. Vous ne pouvez pas refuser à un membre syndical d'assister à une assemblée générale. Et on avait organisé à l'époque l'assemblée générale à la rue des Vignoles, ici à Paris. Et donc on disait, il faut à tout prix que chaque militant associatif puisse se rendre à l'assemblée générale. Ça avait posé un drôle de problème de droit. Parce que, alors il disait, oui, mais on peut pas, non, mais même si vous m'accompagnez, même si vous m'attachez, vous m'accompagnez, imagine-toi, il faut, bon, ils n'avaient pas accédé, hein, mais bon, on leur avait planté des trucs comme ça, de loi, mais des trucs fabuleux, quoi. Ils étaient malades. Et ils pouvaient rien dire, et les avocats relayaient dehors, donc, bon, et à partir de là, a commencé aussi à s'établir les relais, hein, à l'extérieur. Bon, à partir de là, nous sommes restés bien sûr en contact avec des anarchistes, tout ça. Et après, bon, ben, dans la suite des combats personnels que j'ai menés, moi, j'ai toutes ces raisons ont fonctionné, quoi. Voilà. Donc, il y a eu réseaux. Après, il y a eu réseaux qui se sont un peu plus durcis, parce que bon, des fois, je disais, oui, ben, vous êtes bien gentil, mais bon.
C'est ce que tu as toujours dit. Tu as toujours dit que tu pouvais jamais dire faites comme moi, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as du soutien, tu vois, où tu crées des collectifs, des organisations, etc., où tu n'es pas seul.
Tu peux pas demander aux citoyens lambda de faire comme toi, sous le prétexte de dire bon, écoute, moi je me bats, tu n'as qu'à faire pareil. Le gars. Qui n'est pas assisté, le gars qui n'a pas de famille, le gars qui n'a pas de contact, qui n'a pas de machin, tu peux pas. Ou alors c'est toi qui deviens dictateur, là. Moi, je regrette.
Quand les QHS donc, ont été supprimés, enfin le nom QHS a été supprimé, il y a eu les quartiers d'isolement.
Oui.
T'as vu une différence?
Non, ils ont scié le truc de la table. Mais bon.
C'est tout. Le truc du parloir.
Et puis tu as eu accès à tes affaires, tu as eu accès à ta cantine, tu l'avais dans ta cellule, voilà.
Oui, tu pouvais avoir tes affaires, c'était la seule différence.
Au lieu d'appeler le matin, au lieu de, tu vois. Donc, ben, à partir de là, j'ai cantiné. C'est pour ça que, comme on a eu accès à nos propres affaires, c'est pour ça qu'après, j'ai fait rentrer les triers, malgré leur interdiction. Ils voulaient pas que les gens, même les couleurs, quelque chose qui était kaki, ils le voulaient pas. Et moi, par opposition, bon, je faisais tout l'inverse.
Après, donc, il y a eu pas mal de révoltes. Il y a eu des mouvements importants de lutte contre les QHS aussi à l'extérieur.
Oui.
Toi, tu avais écho de donc Knobelpiece, évidemment, avec son livre QHS.
Oui, mais il était encore dedans. Hein,
oui, il était encore. Ouais. Et
il avait écrit Voleur de poules aussi.
Oui, c'est ça, c'est un de ses livres. Il écrit aussi un livre où il raconte ça aussi, Voleur de poules.
Parce qu'au début, quand il a arrêté, c'était un petit. Là, on revient encore dans le phénomène social. Bon, il n'y a pas de fatalité.
Ouais, il y avait la préface de Foucault dans le bouquin de Knobelpiece, tu vois, qui raconte que depuis le 19e siècle, tu vois, il y a toujours eu cette volonté de faire deux groupes de prisonniers, comme tu as les pauvres types d'un côté et puis de l'autre, tu vois, les dangereux.
Les méchants.
Voilà, les méchants.
Les méchants.
Ceux qui résistent, et donc ça permet aussi, on les met en QHS, donc parce que t'es dangereux, considéré comme dangereux, mais aussi ça explique, on va jamais te sortir, parce que tu seras dangereux aussi vis-à-vis de la société, tu seras dangereux dehors, donc t'as cette étiquette de dangereux, tu vois, à l'intérieur, c'est indéfini, quoi, tu vois, c'est un enfermement.
Non, mais non, et puis en plus, bon, c'est une vaste fumisterie, parce que si tu es dangereux et que tu finis ta peine, donc on lâche un dangereux. Non, ça c'est un phénomène, ils criminalisent les gens. Bon, je dis pas qu'au passage, il n'y a pas des fous furieux, hein. Ça existe aussi, hein. Comme dans toute société, comme dans tout groupe humain, hein. Il y a toujours des gens qui relèvent plus de l'asile psychiatrique,
Bon. Bien sûr.
Voilà. Mais, quand tu refuses, d'une façon sociale ou d'une façon politique, bon, l'un rejoint l'autre, hein, de toute façon, Tu deviens dangereux, donc on te criminalise. C'est une fumisterie.
Et puis il y a les séquelles que ça entraîne, tu vois, un enfermement dans l'enfermement en plus, tu vois.
Tu as des poussées d'adrénaline que, évidemment, tu peux très bien ne plus avoir dehors. Bon, moi, si tu préfères, à travers toutes ces révoltes, et puis à travers, y compris ma libération, j'ai toujours veillé, mais comme je le dis, parce que j'étais encadré, parce que j'ai pu le faire, j'ai toujours veillé à ne pas sortir bourré de haine, parce que c'est pas bon. Si tu sors en bête furieuse, c'est pas bon. Demain, tu vas t'accrocher avec quelqu'un, tu vas le tuer alors. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as plus de notion de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Ou l'autre alternative, c'est de sortir complètement à plat ventre. Bon, moi, je me suis toujours arrangé pour. J'ai veillé à ne pas sortir fou furieux et ne pas sortir à plat ventre. Mais ceci dit, tu laisses quand même des plumes. Parce que tu ne mènes pas des combats, même en étant soutenu comme je l'étais, tu ne mènes pas des combats indéfiniment comme ça, sans laisser de plumes, ce n'est pas vrai. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti. Beaucoup de gens me disaient « Ah, tu es bien, hein, tu es bien. » Oui, j'étais bien physiquement, moralement, intellectuellement, j'apparaissais bien. Mais au bout de 2 ans, 3 ans que j'étais dehors, je me suis rendu compte que je venais de passer ces 2-3 dernières années, c'est-à-dire de ma suite à ma libération, et que je commettais pas de choses, mais que j'étais pas tranquille, quoi. Je me suis rendu compte que je me suis rendu compte qu'on a laissé des plumes. Et puis encore aujourd'hui, ça avait, même avec le temps passé. Par exemple, côté relationnel, j'arrive plus à avoir de relations. Tu vois, si tu préfères, je suis sorti avec des braves filles, c'était pas elles. Mais moi, au bout de 6 mois, ça craquait.
Salut. Eh ben, on est toujours sur la courte échelle, émission contre la tôle, contre toutes les tôles. Et on vient d'écouter le bout d'un podcast d'un pote qui était au QHS, au Baumettes, à l'époque, dans les années 70-80, et qui parlait de résistance à l'intérieur. On voulait vous passer ce podcast parce qu'on trouvait que c'est un témoignage qui est précieux. Et qui est aussi tarpin actuel face à ce que le gouvernement annonce, à cette volonté de créer des prisons ultra sécurisées et qui s'inspire du coup des pires endroits d'isolement qui a existé et qui ont existé. Le podcast a une seconde partie qui parle spécifiquement de révolte qu'il y a eu à Saint-Maur, cette prison aussi nommée Santa Muerte, à cause de la violence et des morts qu'il y a eu là-bas. On vous le passera une prochaine fois. Là, on avait envie de continuer et de parler notamment des CRA, des centres de rétention administrative. Et je te laisse y aller.
Oui, parce que... Ah, je déplace mon micro. Assez récemment, donc à savoir le 12 mai, donc lundi, si je ne m'abuse. Oui, lundi 12 mai, il y a le Sénat qui a voté une loi en faveur du retrait des associations dans les CRA. Donc, il faut savoir que dans les CRA, il y a des associations qui font de l'assistance juridique. Il y en a 5, il y a la CIMAD, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, le groupe SOS Solidarité et Solidarité Mayotte. Et il y a Rotaillot principalement, mais c'est aussi surtout porté par une députée qui s'appelle Marie-Carole Siunto, qui pense que ces associations-là gênent la gestion de la politique migratoire de l'État qui freine le nombre d'expulsions. Et du coup, il y a cette loi qui est passée pour se débarrasser des associations dans les centres de rétention le 12 mai, et qui devrait encore, donc validée par le Sénat, et peut-être que l'Assemblée va aussi valider cette décision. Donc, il faut savoir que les associations dans les CRA, elles font deux choses, surtout l'accompagnement juridique, et elles font un peu sortir des informations, surtout via un compte rendu annuel. Enfin, c'est surtout en général ce que moi je trouve intéressant dans le taf qu'elles font, c'est le rapport qu'elles produisent annuellement sur les CRA avec pas mal de données chiffrées. Voilà, c'est ce qu'elles font. Bon, on va y revenir, mais vraiment, c'est elles ont d'armes. Enfin, je me suis encore trompé. Rotaillot, ce genre de lapsus, c'est les mêmes. Bon, Rotaillot, vraiment, il leur en veut parce que elles font du travail militant, et du coup, elles ont répondu avec une tribune dans laquelle elles disent notamment « Les associations jouent un rôle de vigie démocratique. Elles assurent l'exercice effectif des droits, signalent des dysfonctionnements et les violations des droits, rendent visibles les réalités invisibles. Fragiliser leur place, c'est affaiblir un pied de la démocratie, celui qui permet à la société civile d'opérer son devoir d'alerte. » Bla 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 bla. Le violon. Donc, même si ça va être pire, hein, même si c'est grave comme proposition de loi, je pense que c'est important de revenir sur ce que c'est vraiment ces assos, c'est-à-dire des associations qui font un rôle administratif le strict minimum, qui font presque partie de l'administration du CRA, enfin, selon notre analyse et de ce que nous on entend de ce que disent les personnes à l'intérieur, et qui répondent à des appels à projets qui monopolise beaucoup d'argent. En fait, c'est quasiment un marché. En fait, si on regarde sur les appels à projets récents qui ont donc de tous les CRA, de 21 CRA, il y a 25 CRA, voire 27 en comptant les deux en construction, mais si on regarde les appels à projets, il y en a un qui concerne 21 CRA et qui donne les quantités d'argent. Par exemple, pour le CRA de Saint-Jacques-de-la-Lande, ce serait 1 240 000 euros. Pour je vais pas tous les lister, mais je les ai sous les yeux. Pour le CRA de Toulouse-Cornobarieux, c'est 1 520 000 euros. Donc vraiment, c'est des associations qui sont entre leur rôle pseudo-humanitaire et juste des juristes qui bossent, qui répondent à des marchés publics. Je sais pas si on veut peut-être donner quelques exemples de trucs qu'elles ont fait.
Moi, je voulais aussi parler de... mettre un peu de la critique. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Toutes ces nouvelles, ça fait que ce sera pire. Mais il y a aussi des endroits où, en fait... je sais pas, ces assos, SR, notamment, à faire un accompagnement juridique des personnes, des prisonniers à l'intérieur. Mais en fait, les personnes à l'intérieur racontent que il y a des refus de les voir de façon arbitraire pour certains, certaines. Et donc déjà, le taf pour lequel elles existent, en fait, il a pas lieu pour certaines personnes. Mais je voulais aussi dire aussi que on sait qu'en fait, il y a des personnes qui se prennent grave de la répression à l'intérieur et qu'en fait, ces assos, elles laissent faire ça. Elles laissent faire la violence des keufs, hein, de la police aux frontières, du coup. Et en fait, quand elles laissent pas faire les violences, elles les couvrent même. Enfin, genre, ça va jusque-là.
Voilà. Par exemple, quand on dit elles les couvrent, des fois, elles font pas sortir... ce qui se passe, elles n'en parlent pas. Des fois même, elles ne font pas remonter des plaintes. Je pense que moi, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est quand on était en contact avec des personnes à l'intérieur du centre de rétention suite à la vidéo de Frontières sur le CRA de Marseille.
Qui a du coup filmé des prisonniers à leur insu, en mode caméra cachée, et qui a publié une vidéo où le visage des prisonniers n'était pas flouté, contrairement au reste du personnel. Les personnes qui t'a fait à l'intérieur avaient total un visage flouté, mais pas les prisonniers.
Mais il y a des prisonniers qui ont essayé d'utiliser la voie juridique pour se faire entendre et de porter plainte. Évidemment, les keufs n'ont pas pris leur plainte et ils se sont tournés vers Forum Réfugiés et ils ont essayé et ils n'ont jamais donné aucune suite.
Donc l'asso dans le CRA à Marseille, ça.
Oui, Forum Réfugiés, effectivement, l'asso d'association dans le CRA à Marseille. Et on n'a jamais eu de nouvelles de cette plainte. Moi, enfin...
La plainte a été totale bloquée. Bloquée... Je crois que ça a bloqué Forum Réfugiés Paris. En tout cas, ça n'est pas allé au-delà. L'association a bloqué la plainte des personnes à l'intérieur.
J'ai l'impression que nous, notre contact avec l'Anticra à Marseille, on a pas mal d'exemples en tête de plein de prisonniers qui se plaignent de ce suivi qui est pas suffisant pour eux et que c'est vraiment un truc général, plein de collectifs contre les centres de rétention qui font ressortir la parole et où il y a plein de témoignages de personnes qui trouvent que en vrai, ils sont juste là pour dire le minimum des droits, mais comme il n'y a pas beaucoup de droits en centre de rétention, au final, presque, enfin, ils ne servent pas à grand chose. Mais bon.
Et aussi, ce qu'ils font, c'est que ils vont pas transmettre la réalité qu'ils voient à l'intérieur à l'extérieur. Par contre, ils sont ils peuvent vraiment être en collaboration étroite avec les institutions carcérales, donc avec le CRA et la PAF, pour balancer des infos des prisonniers. Enfin, ce que les personnes à l'intérieur leur disent, ils peuvent carrément les ressortir à l'administration. C'est très courant. Mais du coup, c'est vraiment une collaboration plus étroite avec l'administration du CRA et la PAF qu'avec les personnes à l'intérieur. Et donc c'est l'opposé de ce qu'ils sont supposés faire.
En tout cas, c'est ce que nous on constate. Je sais pas, il y a peut-être des CRA où ils font un super taf. Nous, on n'a jamais entendu parler du constat des contacts qu'on a avec l'intérieur.
C'est pas
le cas à Marseille. Et évidemment, quand même, alors, ça reste grave de supprimer les associations. Je pense que ça reste des personnes qui, ça restait peut-être un garde-fou. Si ils sautent, ça va être pire. Ils veulent remplacer ça par l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et l'intégration, qui est juste un service d'État qui va faire sans doute encore pire que ce que font les associations. Donc ça reste un problème, mais trouver ça, enfin, j'ai l'impression que il y a beaucoup de la parole de gauche, c'est quand même de beaucoup soutenir les associations vis-à-vis de cette proposition de loi, et que c'est important de contextualiser ce que c'est un peu la réalité matérielle des centres de rétention. Par exemple, je voyais une vidéo de Off Investigation qui est très bien sur YouTube, un reportage qui parlait des centres de rétention, ce qui est pas fréquent, et donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse, mais qui vraiment abordait pas trop cet angle-là que ces assos vraiment, c'est des prestataires de services administratifs, quoi, et qui font partie du CRA comme le reste, et que c'est pas parce que l'État se fascise et augmente ses envies de répression, qu'il augmente son arsenal répressif. Qu'il faut pour autant accepter de décaler aussi nous, autant que lui se décale, accepter de décaler aussi nous-mêmes nos revendications. J'ai l'impression que ce qu'on veut, c'est pas des associations dans les CRA. Ce qu'on veut, c'est pas de CRA du tout. et que c'est important de le rappeler, et qu'on peut aussi construire une contestation assez forte avec ce mot d'ordre-là. Donc voilà, ça c'était un premier truc à dire. Et après, donc, dans les échanges, par exemple, je reviens un peu sur cette vidéo qui s'appuyait pas mal sur un complément d'enquête qui a été réalisé sur les centres de rétention et qui est bon, moins intéressant, mais un peu intéressant aussi, pourquoi pas, où Rosario parle vraiment du fait que il y a beaucoup de prisonniers qui se retrouvent dans le CRA après être passés par la prison. Et donc, dans le complément d'enquête, il rappelait que seuls 1,4% des personnes qui ont une OQTF ont été condamnées par la justice. Je pense que les deux sont vrais, au sens où presque toutes les personnes qui passent dans le CRA ont une OQTF, en vrai que 75%, mais y a beaucoup de personnes qui reçoivent une OQTF pour lesquelles ça reste un truc qui les met en précarité administrative et qui est vraiment une grosse galère quand même pour toutes leurs démarches, mais qui vont pas forcément se retrouver dans le CRA, et que ça empêche pas. Et qu'au final, dans le CRA, que les deux sont vrais. Donc, c'est bien de rappeler que toutes les personnes qui sont sans papier ne sont pas des délinquants, délinquantes. Enfin, c'est dire ça, c'est faux. Mais que les personnes qui sont sans papier et délinquantes sont quand même particulièrement visées et prennent beaucoup plus plein la gueule que des personnes qui seraient juste sans papier ou des personnes qui seraient juste délinquantes. Et que, du coup, les chiffres à l'échelle, dans les CRA. Faut que je retrouve mes notes. C'est 28,2% qui sortent de la prison et 26% qui se retrouvent en CRA pour des suspicions d'infraction. Donc ça c'est hyper flou, j'imagine tu te fais contrôler avec un couteau, c'est une suspicion d'infraction. Et après bon, pour d'autres chiffres, les personnes qui sont contrôlées sur la voie publique c'est 23,8%, les contrôles routiers c'est 4%, les frontières c'est 3,7%. Donc c'est quand même la raison la plus grosse de se retrouver en CRA, c'est de sortir de prison. Ça reste pas la majorité, ça reste un peu moins que le tiers, mais c'est beaucoup. Et
ça aussi parce que y a plein de personnes qui se retrouvent en tôle et qui sont amenées ensuite en CRA, car si les personnes avaient des titres de séjour, après un passage en tôle, les titres de séjour se voient supprimés. Et aussi parce qu'il y a une collaboration hyper forte entre l'administration pénitentiaire, la préfecture et la police aux frontières. Et du coup, qui fait que les personnes se retrouvent dans des boucles, en fait.
Ouais, clairement.
D'enfermement.
S'il y a des personnes sans papier dans les CRA et dans les prisons, c'est pas parce que les personnes sans papier sont des délinquants, c'est parce que les personnes qui sont délinquantes ont plus de chances de se retrouver en prison parce qu'elles sont sans papier. Ça marche vraiment dans ce sens-là. Et donc, c'est pareil, c'est bien de se dire que toutes les personnes en CRA ne sont pas forcément passées par la prison, mais que beaucoup, parce que le CRA, c'est aussi un outil répressif. L'État, ils veulent le vendre comme... des fois, l'État, il a un peu les deux discours. Il veut le vendre comme un truc qui a un rôle administratif et pas autre. Et à la fois, il veut faire plaisir à l'extrême droite et dire les personnes délinquantes en France, on les expulse. Et du coup, il a à la fois les deux rôles et son rôle répressif, il est hyper important. Dans les chiffres, il y a ce qu'on disait, il y a plein de personnes qui sortent de tôle, mais aussi dans les raisons qui t'amènent en CRA. Donc, je disais tout à l'heure, majoritairement des OQTF ou des trucs qui ressemblent. Par exemple, 75% c'est des OQTF dans les mesures d'éloignement qui amènent en CRA, 3,4% c'est des transferts Dublin, donc c'est les expulsions vers les autres pays européens pour quand t'es pas arrivé dans un autre pays d'abord et que t'as fait ta demande d'asile ailleurs, mais ça reste une mesure administrative. Bon, il y a 13,5% des déplacements en rétention qui sont dus à des ITF, donc des interdictions de territoire français, et ça c'est pareil, c'est une mesure répressive. C'est utiliser le fait de pouvoir expulser les personnes comme une punition, et en général ça se rajoute à ta peine que t'as de base. Donc interdiction de territoire français, c'est un truc qui est très difficile à faire sauter et qui peut être très long et qui peut même être définitif. C'est pas comme une OQTF qui finit par, par exprimer. Et c'est une condamnation pénale, c'est une punition qui en général s'ajoute. Genre, c'est pas au lieu d'être d'aller en prison, tu vas avoir une ITF, c'est tu vas aller en prison et avoir une ITF parce que parce qu'on n'est pas tous égaux en droit et qu'en France, si on est sans papier, on va prendre une peine de base plus la peine parce qu'on est sans papier. C'est-à-dire, par exemple, une ITF et être expulsé derrière, ou alors un placement en CRA, donc 3 mois de plus de rétention, plus une expulsion derrière.
Et je voulais aussi dire, un peu dans l'autre sens, sur les bails de criminalisation des personnes qui sont à l'intérieur des centres de rétention. Parce qu'en fait, il y a une répression hyper forte aussi des résistances qui existent à l'intérieur, que ce soit individuelles comme collectives. Et que, par exemple, les refus d'embarquer, les tentatives d'évasion, les révoltes, elles sont grave réprimées et amènent les personnes en taule. Et ça me fait penser, ça s'était passé en février 2024, il y avait une révolte de prisonniers face à la violence de l'enfermement, en tout cas c'était leur revendication. Et l'une des personnes a pris 3 mois ferme pour avoir beurré les caméras, des bails comme ça, où en fait tu te prends des peines pour des bails de résistance. Tu beurres une cam et tu te retrouves en tôle et après tu retournes en CRA.
Et si tu refuses ton vol par exemple, si tu refuses de sortir du territoire, tu pars en tôle ensuite parce que t'as refusé.
Ça marche comme ça. Mais quand même, dernièrement, ils font des expulsions qui sont tellement violentes, forcées, où les personnes sont contraintes, entravées, que ça devient hyper dur de refuser aussi ces vols.
Et au CRA de Marseille, donc là, les chiffres que je cite depuis tout à l'heure, à part celui sur les OQTF, mais celui sur les pourcentages de mesures d'éloignement ou les pourcentages de situation avant de se retrouver en CRA, ils sont effectivement issus du compte rendu annuel des associations donc forum et tout qui donnent un peu des chiffres et donc c'est le truc bien qu'ils font qui ces associations font. Et donc sur Marseille on a des chiffres particulièrement hauts de personnes sortant de prison, donc 47,1% de personnes qui sortent de prison, 29,8% de suspicion d'infraction, donc c'est énorme. Et pareil, beaucoup plus en termes d'interdiction de territoire français, c'est 27,8%, donc c'est plus haut que les chiffres que je disais tout à l'heure. J'avoue, je sais pas trop pourquoi, je sais pas s'il y a un tri qui est effectué, un choix délibéré, ou si c'est un hasard statistique parce qu'il y a des prisons à côté, mais en tout cas c'est le cas. Et si on revient, par exemple, sur ce qu'on disait on parlait tout à l'heure du reportage qu'avait fait reportage de la vidéo de Frontières où ils entraient dans le CRA de Marseille et où ils discutaient avec le commandant qui disait on a que des sortants de prison. Là, pareil, ils contextualisaient pas du tout. Il faut savoir que le CRA de Marseille, c'est le troisième CRA de France où il y a le plus de sortants de prison en France. Il faisait un peu une généralité de ce fait-là qui est pas vrai partout. Du coup, voilà. Est-ce qu'on conclut ? Je sais pas si.
Moi, je voulais encore dire un truc. Du coup, là, on a fait une partie, on a pas mal parlé des centres de rétention administrative. Et j'avais envie de parler aussi d'autres liens qui existent avec la tôle, en fait, parce que les CRA, c'est aussi des prisons. Et du coup, il y a par exemple dans les CRA, il y a des mitards qui sont en fait gardés par les keufs de la PAF. Et il y a aussi des transferts disciplinaires pour casser les révoltes qui existent. Et c'est aussi des lieux où il y a une humiliation qui est arbitraire et de la répression qui est violente envers les personnes désignées comme meneuses ou juste les prisonniers. Et il y a aussi la gestion de la détention par les médocs et en fait tous ces liens. Enfin, je sais pas comment dire, les pires pratiques qui existent en tôle, elles existent aussi dans les CRA, quoi.
Et bon, j'ai l'impression que c'est important de mener les deux discours en même temps, quoi. Que les délinquants, enfin, que l'amalgame qui est fait par la presse bourgeoise et par plein de politiques de délinquance et immigration, il est faux. Il est contesté par les chiffres, même dans le complément d'enquête dont je parlais. Il citait une étude du CEPII. Qui disait que c'est vraiment pas le cas, qu'il n'y a pas de constatation faite entre la délinquance et l'immigration, sauf dans des situations très spécifiques de pauvreté, mais que c'est vraiment même pas tout le temps vrai.
Et que de manière générale, on ne constate pas dans les chiffres de rapport entre la délinquance et l'immigration, à part du fait de l'arbitraire pénal, en fait. Et même ce rapport-là, qui est un rapport bon, d'État, le dit, qu'on a plus de chances de se faire contrôler, on a plus de chances de prendre une peine plus lourde quand on est une personne sans papier. Et que du coup, c'est pour ça qu'effectivement, ils sont un peu surreprésentés dans les prisons. Parce qu'ils prennent plus cher, et que du coup, je pense que c'est important de critiquer le CRA en tant que ça, en tant que c'est un exemple du fait que le CRA c'est révélateur de ce que c'est la prison. C'est quelque chose qui te punit en fonction de ce que tu es et d'où tu viens, et qui questionne pas toujours ce que t'as fait, et que du coup, s'il y a des personnes qui sont enfermées juste parce qu'elles ont pas les bons papiers, c'est comme de manière générale la prison, t'es enfermé parce que t'es pauvre. Ou parce que tu subis des oppressions.
Ouais, grave. Trop d'accord avec ce que t'as dit. En fait, il y a une criminalisation qui est tellement vénère pour en fait justifier l'enfermement des gens, quoi. On a un appel de Vivi qu'on va passer à l'antenne bientôt. Et on va terminer du coup l'émission avec elle.
Trop bien.
Ouais. Je te passe. Ouais. La branche.
Tu nous entends, Vivi?
Ah, nous pour l'instant, on t'entend pas.
Mais trop bien. Merci pour ces précisions et ces chiffres très très. Enfin.
Oui, désolé, j'ai blablaté beaucoup, j'ai donné beaucoup de chiffres.
Je ne referai pas ça souvent. Ça fait fille de fois, quoi. Enfin, je sais.
Oui.
On a des galères techniques à galère. Oui. Comme quelquefois. Et.
Ouais. On va essayer autre chose.
Et
un problème technique encore une fois.
Mais c'est pour laisser le temps de digérer les infos aussi. Enfin, il y en a pas mal qui viennent de passer. C'était dense. Et peut-être qu'on peut passer une petite musique en attendant. Enfin, je sais pas. Ou alors ça fonctionne.
Il y a des galères avec l'ordi, ça ne exact. Marche pas. Mm-mm.
L'appel devrait arriver incessamment sous peu. On attend juste.
Allez. Bon, on attend pour faire des dédicaces du coup. Grosse dédicace et gros big up à toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes enfermées, à celles et ceux qui nous écrivent aussi, à l'infâme, à Mini, à Zouzou. À des personnes qui ne peuvent pas nous entendre aussi, on a reçu quelques courriers, mais des personnes qui ne peuvent pas écouter Galère. Il y avait Soulève.
Si tu nous écoutes,
oui,
bonsoir à toi. Et Camille et Soulève, vous êtes grave dans nos cœurs aussi, même si vous ne pouvez pas entendre.
Allez, je te passe à l'antenne.
Ok, là, ça devrait marcher.
Ça part. Vivi, tu nous entends?
Allô?
Ouais, c'est bon.
Alors, je vais baisser un peu ma radio, moi.
Est-ce que
comme vous savez, l'équipe, l'année dernière, quand j'étais en semi-liberté, j'avais déposé plainte sur une surveillante pénitentiaire, que vous savez très bien. Effectivement, et bien là, j'ai le résultat, j'ai le certificat de dépôt de plainte qui est arrivé au Beaumetre par les tribunaux. Voilà. Donc, sur ça, et bien, il y a bien une procédure qui est en cours. Donc, à savoir que, effectivement, que moi, quand je fais des procédures, je relance. Donc, à savoir que toutes les plaintes pénitentiaires, que ça touche la pénitentiaire, que ça touche un surveillant pénitentiaire, ça fait partir de l'ordre de l'armée. Donc, il faut déposer plainte aux polices et des polices. Il ne faut pas aller au commissariat, aux gendarmeries, qui vont couvrir les pénitentiaires. Donc, cette plainte, effectivement, elle a abouti. Donc, dans 3 mois, on passe au tribunal. Voilà, okay. Avec Bella. La surveillante qu'on a parlé beaucoup l'année dernière, donc voilà, donc moi en ce moment je ne la vois très peu, plus du tout même d'ailleurs, depuis que j'ai reçu le certificat de dépôt de plainte, avec le numéro de plainte, j'ai bien vu l'avocate. L'avocate, eh bien, effectivement, eh bien, elle a donné tous les papiers, donc eh bien, on verra le résultat, mais en attendant, ça aboutit. Donc, à savoir que la pénitentiaire, tout ce qui est plainte pénitentiaire, il faut déposer plainte aux polices et des polices.
T'étais
D'autre
passé...
part, je tiens à préciser qu'à partir de demain, 9h, et ça c'est pour Karim de Arles, dès demain, à partir de 9h, eh bien, je vais faire la même chose pour le bacmestre. Le bacmestre de Arles, parce que il continue, et donc ça s'appelle de l'harcèlement moral. Donc à force de jouer sur l'harcèlement moral, eh bien là, eh bien, on va faire pareil, on va faire la même chose, parce que je connais le parcours maintenant de les procédures qu'il faut lancer contre les pénitentiaires. Donc ça va être police des polices d'une part, mais ça va être directeur des prisons générales sud. Effectivement, parce que comme vous savez, j'ai arrêté l'année dernière le Premier ministre devant les Baumettes, et que j'ai expliqué qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas aux Baumettes. Donc tout ça, ça fait que eh bien, ça aboutit, parce qu'il y a des vidéos que j'avais prises qui gênent, et effectivement, ils ne savent pas à qui j'ai les ai données. Donc là, ça, les procédures, elles avancent pour dire... Eh bien, c'est bon, on a pris en compte, on va sanctionner ou on va transférer, parce que également quand un surveillant pénitentiaire a un souci ou trop de soucis, il est trop parlé de lui ou d'elle dans la détention, on le transfère en attendant à un autre pénitentiaire qui pour pas qu'il continue ses habitudes. Donc, okay. Eh bien là, dès demain matin, 9h, ma fille que j'ai eue ce matin à 9h, donc Karim, je te le dis, reste calme, prends-le avec le sourire, ça c'est pour toi, c'est notre combat. Et là, c'est moi qui lance la procédure, parce que ben, je vais faire jouer l'harcèlement moral sur moi, parce qu'effectivement, j'ai le droit de m'inquiéter. Heureusement que l'équipe est là pour donner des nouvelles. Donc, les procédures demain matin, elles seront lancées dès 9h, dès demain matin 9h, par ma fille, par mail, par courrier avec accusé, lettre recommandée avec accusé. Et monsieur le bagmestre, si vous voulez aller jusqu'au bout des bouts de la procédure, en attendant, elle va être déclenchée dès demain matin 9h. Donc automatiquement, moi personnellement, Vivi, et que vous avez mon nom sur les courriers, parce que le bacmestre d'ici a reçu un avertissement par mon avocat, et c'est pour ça que toi tu reçois les courriers, mon cœur. Donc je lancerai toujours, et je vais me faire un malin plaisir d'attaquer ce bacmestre par le chemin que je connais, donc police et des polices, défenseur des droits des détenus. Également, je vais lancer pareil au niveau de la poste centrale de Arles, qui eux, ils vont dire non, nous on veut pas d'histoire, donc on va faire en sorte de remonter les réclamations, ça c'est sûr, parce que c'est ce qui s'est passé au Baumettes. Donc s'il faut en arriver jusqu'à des manifestations devant devant la maison centrale de Arles, eh bien je vais l'organiser. Parce que j'en ai pas pour longtemps. On organisera une manifestation devant la maison centrale de Arles. Mais là, on mettra des enveloppes, on mettra des timbres barrés, des bien sûr utilisés. On va couper tout ce que vous recevez. On peut déchirer les timbres qu'on reçoit à la radio. Et on va les coller, on va faire une manipulation.
Ah ouais, bah, pas de timbre qui marche.
Et on va le dénoncer publiquement, ce monsieur. Parce que ce monsieur, premièrement, c'est du racial qu'il fait. Parce que ça s'appelle du racial. Parce que, voilà. Et en plus, il fait de l'harcèlement moral. Donc, l'harcèlement moral, eh bien, monsieur le bacmestre de Arles, je tiens à te préciser que là, aujourd'hui, dès demain matin, 9h, c'est notre famille qui va vous attaquer, parce que Monsieur Karim fait partir de ma famille aujourd'hui, que vous le voulez ou que vous le voulez pas. Donc, dès demain matin, 9h, et je vous le dis, et je sais qu'il est derrière son poste, ce cousin de la ville. Il est derrière son poste en train d'écouter la courte échelle, parloir libre. Eh bien, je te le dis, ça sera pas monsieur qui va t'attaquer, ça sera madame qui va t'attaquer. Mais madame, elle ne lâchera pas. Madame, elle organisera des manifestations. Madame, elle ne te lâchera pas. Madame, elle va te mettre vraiment en procédure. Par contre, ouais. Ouais.
Oui, on va bientôt devoir laisser l'antenne. Et du coup, est-ce que tu veux faire une dernière dédicace? Et peut-être si tu as une musique que tu veux mettre, on peut la mettre avec grand plaisir.
Écoute, on va mettre, Bande Organisée.
Le problème, c'est que Bande Organisée,
elle dure trop longtemps. Tu veux pas une plus courte?
Ou sinon, la coupe.
Comme vous voulez.
On peut mettre le début de Bande Organisée.
En tout cas, Karim, on te dit force et courage à toi. Et reste calme, s'il te plaît, parce qu'on lance la procédure demain. Donc voilà. Karim, t'es mon homme. Personne ne nous séparera. Et tu fais partir de ma famille. Et là, par contre, la famille...
on ne touche pas. Voilà. On souhaite... On envoie plein de force à tout le monde, à tous les potes à l'intérieur. Okay. Merci à toi, Vivi,
moi,
d'avoir rappelé.
Et moi, je suis au courant sur le certificat de dépôt de plainte qui est bien enregistré sur le numéro, voilà. Et dans 3 mois, on passe au tribunal.
Ok.
Voilà.
Allez,
mais je suis victime, hein. Je vous le dis. Je suis victime. Je suis pas accusé, je suis victime.
Voilà. Pas le même rôle cette fois.
Donc, je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, je vous inviterai l'équipe à venir à l'audience. Voilà. Parce que je vous dirai dans quel tribunal, parce que c'est pas le tribunal de Marseille, ça, c'est un autre tribunal. Voilà, mais c'est l'armée. Voilà.
Okay.
Donc je vous inviterai. Voilà.
Plein de force à toi, Vivi. Merci d'avoir appelé.
Eh bien, merci à vous, l'équipe.
Prends soin.
Et ben, si, je vois que tu as la voix enrouée parce que tu as fêté l'OM. Bravo, l'OM.
Comment elle t'affiche.
Hein. Voilà, hein. 4-0. Voilà, c'était le big up. Voilà, bon, ben, tu as bien dormi, hein, si. Voilà. Tu as fait ton taf, c'est bon.
Ouais, c'est ça.
Bon, allez, bonne soirée à toute l'équipe. Et je reprends. Est-ce que tu peux me passer Charlie part, ou je rappelle Charlie à son téléphone.
Non mais je te prends tout de suite. Allez. Merci d'avoir appelé.
Ciao.
Allez, l'OM.
Ciao. Merci.
Du coup on va devoir en fait laisser l'antenne
tout
maintenant.
Court.
Du coup
on passera deux sons la semaine pro.
Voilà, c'est ça, on se rattrapera.
Et on laisse avec Perche 3000, il me semble. Pardon.
Oui, c'est ça. Il me semble.
Qui rôde dans le coin.
Qui arrive bientôt. Écoutez, ça va être super. Et puis nous, on vous souhaite
grosse force à tous.
Ouais. De la force, d'aller comme ça peut aller. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
On pense à vous.
On pense à vous.
À la semaine prochaine.
Ciao. بلك كسر نبرة أنا بعد أبي بلك عاد بلك كسر نبرة أنا بعد أبي هيا أمين قد فودا صاحبي فيصل يحمان يسرى فاليس يحيى أيمن فركيوي صاحبي اني مغمور